Chapitre 14. La fête étrange. Suite. C'était, dans une grande salle au plafond bas, un repas comme ce que l'on offre, la veille des noces de campagne, aux parents qui sont venus de très loin. Les deux enfants avaient lâché les mains de l'écolier et s'étaient précipités dans une chambre attenante, où l'on entendait des voix puériles et des bruits de cuillères battant les assiettes. Maud, avec audace et sans s'émouvoir, enjamba un banc et se trouva assis auprès de deux vieilles paysannes. Il se mit aussitôt à manger avec un appétit féroce, et c'est au bout d'un instant seulement qu'il leva la tête pour regarder les convives et les écouter. On parlait peu, d'ailleurs. Ces gens semblaient à peine se connaître. Ils devaient venir, les uns du fond de la campagne, les autres de villes lointaines. Il y avait, épars le long des tables, quelques vieillards avec des favoris, et d'autres complètement rasés qui pouvaient être d'anciens marins. Près d'eux dînaient d'autres vieux qui leur ressemblaient, même face tannée, mêmes yeux vifs sous des sourcils en broussaille, mêmes cravates étroites comme des cordons de souliers. Mais il était aisé de voir que ceux-ci n'avaient jamais navigué plus loin que le bout du canton. Et s'ils avaient tangué, roulé plus de 1000 fois sous les averses et dans le vent, c'était pour ce dur voyage sans péril qui consiste à creuser le sillon jusqu'au bout de son champ et à retourner ensuite la charrue. On voyait peu de femmes. Quelques vieilles paysannes avec de rondes figures ridées comme des pommes sous des bonnets tuyautés. Il n'y avait pas un seul de ses convives avec qui Maud ne se sentit à l'aise et en confiance. Il expliquait ainsi plus tard cette impression quand on a, disait-il, commis quelques lourdes fautes impardonnables. On songe parfois au milieu d'une grande amertume. Il y a pourtant par le monde des gens qui me pardonneraient. On imagine de vieilles gens, des grands-parents pleins d'indulgence, qui sont persuadés à l'avance que tout ce que vous faites est bien fait. Certainement, parmi ces bonnes gens-là, les convives de cette salle avaient été choisis. Quant aux autres, c'étaient des adolescents et des enfants. Cependant, auprès de Maud, les deux vieilles femmes causaient. « En mettant tout pour le mieux, » disait la plus âgée, d'une voix cocasse et suraiguë qu'elle cherchait vainement à adoucir. « Les fiancés ne seront pas là demain avant 3 heures. »«
Tais-toi, tu me ferais mettre en colère, » répondait l'autre du ton le plus tranquille.
Celle-ci portait sur le front une capeline tricotée.
« Comptons, » reprit la première sans s'émouvoir. « 1 heure et demie de chemin de fer de Bourges à Vierzon et 7 lieues de voiture de Vierzon jusqu'ici. »
La discussion continua. Maud n'en perdait pas une parole. Grâce à cette paisible prise de bec, la situation s'éclaira faiblement. Franz de Galais, le fils du château, qui était étudiant ou marin ou peut-être aspirant de marine, on ne savait pas, était allé à Bourges pour y chercher une jeune fille et l'épouser. Chose étrange, ce garçon, qui devait être très jeune et très fantasque, réglait tout à sa guise dans le domaine. Il avait voulu que la maison où sa fiancée entrerait ressemblât à un palais en fête. Et pour célébrer la venue de la jeune fille, il avait invité lui-même ses enfants et ses vieilles gens débonnaires. Tels étaient les points que la discussion des deux femmes précisait. Elles laissaient tout le reste dans le mystère et reprenaient sans cesse la question du retour des fiancés. L'une tenait pour le matin du lendemain, l'autre pour l'après-midi.
« Ma pauvre moinelle, tu es toujours aussi folle !» disait la plus jeune avec calme. « Et toi, ma pauvre Adèle, toujours aussi entêtée! Il y a 4 ans que je ne t'avais vue, tu n'as pas changé !» répondait l'autre en haussant les épaules, mais de sa voix la plus paisible. Et elle continuait ainsi à se tenir tête sans la moindre humeur. Mône intervint dans l'espoir d'en apprendre davantage. « Est-elle aussi jolie qu'on le dit, la fiancée de Franz ?» Elles le regardèrent, interloquées. Personne d'autre que Franz n'avait vu la jeune fille. Lui-même, en revenant de Toulon, l'avait rencontrée un soir, désolé, dans un de ces jardins de Bourges qu'on appelle les Marais. Son père, un tisserand, l'avait chassée de chez lui. Elle était fort jolie, et Franz avait décidé aussitôt de l'épouser. C'était une étrange histoire. Mais son père, monsieur de Galais, et sa sœur Yvonne, ne lui avaient-ils pas toujours tout accordé? Mône, avec précaution, allait poser d'autres questions, lorsque parut à la porte un couple charmant. Une enfant de 16 ans, avec corsage de velours et jupe à grand volant, un jeune personnage en habit à haut col et pantalon à élastique. Ils traversèrent la salle, esquissant un pas de deux. D'autres les suivirent, puis d'autres passèrent en courant, poussant des cris, poursuivis par un grand Pierrot blafard, aux manches trop longues, coiffé d'un bonnet noir et riant d'une bouche édentée. Il courait à grandes enjambées maladroites, comme si à chaque pas il eût dû faire un saut, et il agitait ses longues manches vides. Les jeunes filles en avaient un peu peur. Les jeunes gens lui serraient la main, et il paraissait faire la joie des enfants qui le poursuivaient avec des cris perçants. Au passage, il regarda Mône de ses yeux vitreux, et l'écolier crut reconnaître, complètement rasé, le compagnon de M. Maloyau, le bohémien qui tout à l'heure accrochait les lanternes. Le repas était terminé, chacun se levait. Dans les couloirs s'organisaient des rondes et des farandoles. Une musique, quelque part, jouait un pas de menuet. Mône, la tête à demi cachée dans le collet de son manteau, comme dans une fraise, se sentait un autre personnage. Lui aussi, gagné par le plaisir, il se mit à poursuivre le grand Pierrot à travers les couloirs du domaine, comme dans les coulisses d'un théâtre où la pantomime de la scène se fut partout répandue. Il se trouva ainsi mêlé jusqu'à la fin de la nuit à une foule joyeuse aux costumes extravagants. Parfois il ouvrait une porte et se trouvait dans une chambre où l'on montrait la lanterne magique. Des enfants applaudissaient à grand bruit. Parfois, dans un coin de salon où l'on dansait, il engageait conversation avec quelques dandies et se renseignait hâtivement sur les costumes que l'on porterait les jours suivants. Un peu angoissé à la longue par tout ce plaisir qui s'offrait à lui, craignant à chaque instant que son manteau entr'ouvert ne laissât voir sa blouse de collégien, il alla se réfugier un instant dans la partie la plus paisible et la plus obscure de la demeure. On n'y entendait que le bruit étouffé d'un piano. Il entra dans une pièce silencieuse, qui était une salle à manger, éclairée par une lampe à suspension. Là aussi, c'était fête, mais fête pour les petits-enfants. Les uns, assis sur des poufs, feuilletaient des albums ouverts sur leurs genoux. D'autres étaient accroupis par terre devant une chaise, et gravement, ils faisaient sur le siège un étalage d'images. D'autres, auprès du feu, ne disaient rien, ne faisaient rien, mais ils écoutaient au loin, dans l'immense demeure, la rumeur de la fête. Une porte de cette salle à manger était grande ouverte. On entendait dans la pièce attenante jouer du piano. Mône avança curieusement la tête. C'était une sorte de petit salon parloir. Une femme ou une jeune fille, un grand manteau marron jeté sur ses épaules, tournait le dos, jouant très doucement des airs de ronde ou de chansonnette. Sur le divan, tout à côté, 6 ou 7 petits garçons et petites filles, rangés comme sur une image, sages comme le sont les enfants lorsqu'il se fait tard, écoutaient. De temps en temps seulement, l'un d'eux, arc-bouté sur les poignets, se soulevait, glissait à terre et passait dans la salle à manger. Un de ceux qui avait fini de regarder les images venait prendre sa place. Après cette fête, où tout était charmant, mais fiévreuse et fou, où lui-même avait si follement poursuivi le grand Pierrot, Moon se trouvait là, plongée dans le bonheur le plus calme du monde. Sans bruit, tandis que la jeune fille continuait à jouer, il retourna s'asseoir dans la salle à manger et, ouvrant un des gros livres rouges épars sur la table, il commença distraitement à lire. Presque aussitôt, un des petits qui était par terre s'approcha, se pendit à son bras et grimpa sur son genou pour regarder en même temps que lui. Un autre en fit autant de l'autre côté. Alors, ce fut un rêve comme son rêve de jadis. Il put imaginer longuement qu'il était dans sa propre maison, marié, un beau soir, et que cet être charmant et inconnu qui jouait du piano près de lui, c'était sa femme. Chapitre 15. La rencontre. Le lendemain matin, Moon fut prêt un des premiers. Comme on le lui avait conseillé, il revêtit un simple costume noir, de mode passée, une jaquette serrée à la taille, avec des manches bouffantes aux épaules, un gilet croisé, un pantalon élargi du bas jusqu'à cacher ses fines chaussures, et un chapeau haut de forme. La cour était déserte encore lorsqu'il descendit. Il fit quelques pas et se trouva comme transporté dans une journée de printemps. Ce fut en effet le matin le plus doux de cet hiver-là. Il faisait du soleil comme au premier jour d'avril. Le givre fondait et l'herbe mouillée brillait comme humectée de rosée. Dans les arbres, plusieurs petits oiseaux chantaient et de temps à autre, une brise tiédie coulait sur le visage du promeneur. Il fit comme les invités qui se sont éveillés avant le maître de la maison. Il sortit dans la cour du domaine, pensant à chaque instant qu'une voix cordiale et joyeuse allait crier derrière lui « Déjà réveillé, Augustin ?» Mais il se promena longtemps seul à travers le jardin et la cour. Là-bas, dans le bâtiment principal, rien ne remuait, ni aux fenêtres, ni à la tourelle. On avait ouvert déjà, cependant, les deux battants de la ronde porte de bois. Et, dans une des fenêtres du haut, un rayon de soleil donnait, comme en été, aux premières heures du matin. Moon, pour la première fois, regardait en plein jour l'intérieur de la propriété. Les vestiges d'un mur séparaient le jardin délabré de la cour, où l'on avait, depuis peu, versé du sable et passé le râteau. À l'extrémité des dépendances qu'il habitait, c'étaient des écuries bâties dans un amusant désordre, qui multipliaient les recoins garnis d'arbrisseaux fous et de vignes vierges. Jusque sur le domaine, déferlaient des bois de sapin qui le cachaient à tout le pays plat, sauf vers l'est, où l'on apercevait des collines bleues couvertes de rochers et de sapins encore. Un instant, dans le jardin, Moon se pencha sur la branlante barrière de bois qui entourait le vivier. Vers les bords, il restait un peu de glace mince et plissée comme une écume. Il s'aperçut lui-même reflété dans l'eau, comme incliné sur le ciel, dans son costume d'étudiant romantique. Et il crut voir un autre Moon, non plus l'écolier qui s'était évadé dans une carriole de paysan, mais un être charmant et romanesque au milieu d'un beau livre de prix. Il se hâta vers le bâtiment principal, car il avait faim. Dans la grande salle où il avait dîné la veille, une paysanne mettait le couvert. Dès que Moon se fut assis devant un des bols alignés sur la nappe, elle lui versa le café en disant Vous êtes le premier, monsieur. »
Il ne voulut rien répondre, tant il craignait d'être soudain reconnu comme un étranger. Il demanda seulement à quelle heure partirait le bateau pour la promenade matinale qu'on avait annoncée.
« Pas avant une demi-heure, monsieur. Personne n'est descendu encore. »
fut la réponse. Il continua donc d'errer en cherchant le lieu de l'embarcadère, autour de la longue maison châtelaine aux ailes inégales comme une église. Lorsqu'il eut contourné l'aile sud, il aperçut soudain les roseaux, à perte de vue, qui formaient tout le paysage. L'eau des étangs venait de ce côté mouiller le pied des murs, et il y avait, devant plusieurs portes, de petits balcons de bois qui surplombaient les vagues clapotantes. Désœuvré, le promeneur erra un long moment sur la rive sablée comme un chemin de halage. Il examinait curieusement les grandes portes aux vitres poussiéreuses qui donnaient sur des pièces délabrées ou abandonnées, sur des débarras encombrés de brouettes, d'outils rouillés et de pots de fleurs brisés. Lorsque soudain, à l'autre bout des bâtiments, il entendit des pas grincer sur le sable. C'étaient deux femmes, l'une très vieille et courbée, l'autre une jeune fille, blonde, élancée, dont le charmant costume, après tous les déguisements de la veille, parut d'abord à Mône extraordinaire. Elles s'arrêtèrent un instant pour regarder le paysage, tandis que Mône se disait, avec un étonnement qui lui parut plus tard bien grossier, « Voilà sans doute ce qu'on appelle une jeune fille excentrique. Peut-être une actrice qu'on a mandée pour la fête. » Cependant, les deux femmes passaient près de lui, et Mône, immobile, regarda la jeune fille. Souvent, plus tard, lorsqu'il s'endormait après avoir désespérément essayé de se rappeler le beau visage effacé, il voyait en rêve passer des rangées de jeunes femmes qui ressemblaient à celle-ci. L'une avait un chapeau comme elle, et l'autre son air un peu penché. L'autre son regard si pur, l'autre encore sa taille fine. Et l'autre avait aussi ses yeux bleus. Mais aucune de ces femmes n'était jamais la grande jeune fille. Mône eut le temps d'apercevoir, sous une lourde chevelure blonde, un visage aux traits un peu courts, mais dessinés avec une finesse presque douloureuse. Et comme déjà elle était passée devant lui, il regarda sa toilette, qui était bien la plus simple et la plus sage des toilettes. Perplexe, il se demandait s'il allait les accompagner, lorsque la jeune fille, se tournant imperceptiblement vers lui, dit à sa compagne « Le bateau ne va pas tarder maintenant, je pense. » Et Mône les suivit. La vieille dame, cassée, tremblante, ne cessait de causer gaiement et de rire. La jeune fille répondait doucement. Et lorsqu'elles descendirent sur l'embarcadère, elle eut ce même regard innocent et grave qui semblait dire « Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Je ne vous connais pas. Et pourtant, il me semble que je vous connais. » D'autres invités étaient maintenant épars entre les arbres, attendant. Et trois bateaux de plaisance accostaient, prêts à recevoir les promeneurs. Un à un, sur le passage des dames, qui paraissait être la châtelaine et sa fille, les jeunes gens saluaient profondément et les demoiselles s'inclinaient. Étrange matinée, étrange partie de plaisir. Il faisait froid malgré le soleil d'hiver et les femmes enroulaient autour de leur cou ces boas de plumes qui étaient alors à la mode. La vieille dame resta sur la rive. Et, sans savoir comment, Mône se trouva dans le même yacht que la jeune châtelaine. Il s'accouda sur le pont,
tenant d'une main son chapeau battu par le grand vent, et il put regarder à l'aise la jeune fille qui s'était assise à l'abri. Elle aussi le regardait. Elle répondait à ses compagnes, souriait, puis posait doucement ses yeux bleus sur lui, en tenant sa lèvre un peu mordue. Un grand silence régnait sur les berges prochaines. Le bateau filait avec un bruit calme de machines et d'eau. On eût pu se croire au cœur de l'été. On allait aborder, semblait-il, dans le beau jardin de quelques maisons de campagne. La jeune fille s'y promènerait sous une ombrelle blanche. Jusqu'au soir, on entendrait les tourterelles gémir. Mais soudain, une rafale glacée venait rappeler décembre aux invités de cette étrange fête. On aborda devant un bois de sapin. Sur le débarcadère, les passagers durent attendre un instant, serrés les uns contre les autres, qu'un des bateliers eût ouvert le cadenas de la barrière. Avec quel émoi Mône se rappelait dans la suite cette minute où, sur le bord de l'étang, il avait eu, très près du sien, le visage désormais perdu de la jeune fille. Il avait regardé ce profil si pur de tous ses yeux, jusqu'à ce qu'ils fussent près de s'emplir de larmes. Et il se rappelait avoir vu, comme un secret délicat qu'elle lui eût confié, un peu de poudre restée sur sa joue. À terre, tout s'arrangea comme dans un rêve. Tandis que les enfants couraient avec des cris de joie, que des groupes se formaient et s'éparpillaient à travers bois, Mône s'avança dans une allée où, 10 pas devant lui, marchait la jeune fille. Il se trouva près d'elle sans avoir eu le temps de réfléchir. « Vous êtes belle, » dit-il simplement. Mais elle hâta le pas et, sans répondre, prit une allée transversale. D'autres promeneurs couraient, jouaient à travers les avenues, chacun errant à sa guise, conduit seulement par sa libre fantaisie. Le jeune homme se reprocha vivement ce qu'il appelait sa balourdise, sa grossièreté, sa sottise. Il errait au hasard, persuadé qu'il ne reverrait plus cette gracieuse créature. Lorsqu'il l'aperçut soudain, venant à sa rencontre et forcé de passer près de lui dans les 3 sentiers. Elle écartait de ses 2 mains nues les plis de son grand manteau. Elle avait des souliers noirs très découverts. Ses chevilles étaient si fines qu'elles pliaient par instants et qu'on craignait de les voir se briser. Cette fois, le jeune homme salua en disant très bas « Voulez-vous me pardonner ?»« Je vous pardonne, » dit-elle gravement. « Mais il faut que je rejoigne les enfants puisqu'ils sont les maîtres aujourd'hui. Adieu !» Augustin la supplia de rester un instant encore. Il lui parlait avec gaucherie, mais d'un ton si troublé, si plein de désarroi, qu'elle marcha plus lentement et l'écouta. « Je ne sais même pas qui vous êtes, » dit-elle enfin. Elle prononçait chaque mot d'un ton uniforme, en appuyant de la même façon sur chacun, mais en disant plus doucement le dernier. Ensuite, elle reprenait son visage immobile, sa bouche un peu mordue, et ses yeux bleus regardaient fixement au loin. « Je ne sais pas non plus votre nom, » répondit Mône. Il suivait maintenant un chemin découvert, et l'on voyait à quelque distance les invités se presser autour d'une maison isolée dans la pleine campagne. « Voici la maison de Franz, » dit la jeune fille. « Il faut que je vous quitte. » Elle hésita, le regarda un instant en souriant et dit « Mon nom, je suis Mademoiselle Yvonne de Galais. » Et elle s'échappa. la maison de Franz était alors inhabitée. Mais Maud la trouva en veille jusqu'au grenier par la foule des invités. Il n'eut guère le loisir, d'ailleurs, d'examiner le lieu où il se trouvait. On déjeuna en hâte d'un repas froid emporté dans les bateaux, ce qui était fort peu de saison. Mais les enfants en avaient décidé ainsi, sans doute. Et l'on repartit. Maud s'approcha de Mademoiselle de Galais, dès qu'il la vit sortir, et, répondant à ce qu'elle avait dit tout à l'heure, « Le nom que je vous donnais était plus beau, » dit-il. « Comment ? Quel était ce nom ? » fit-elle toujours avec la même gravité. Mais il eut peur d'avoir dit une sottise et ne répondit rien. « Mon nom à moi est Augustin Maune, » continua-t-il, « et je suis étudiant. »«
Oh ! Vous étudiez ? » dit-elle.
Et ils parlèrent un instant encore. Ils parlèrent lentement, avec bonheur, avec amitié. Puis l'attitude de la jeune fille changea. Moins hautaine et moins grave maintenant, elle parut aussi plus inquiète. On eût dit qu'elle redoutait ce que Maud allait dire et s'en effarouchait à l'avance. Elle était auprès de lui, toute frémissante, comme une hirondelle un instant posée à terre, et qui déjà tremble du désir de reprendre son vol.
« À quoi bon ? À quoi bon ? » répondait-elle doucement au projet que faisait Maud.
Mais lorsqu'enfin il osa lui demander la permission de revenir un jour vers ce beau domaine, « Je vous attendrai, » répondit-elle simplement. Ils arrivaient en vue de l'embarcadère. Elle s'arrêta soudain et dit pensivement, « Nous sommes deux enfants, nous avons fait une folie. Il ne faut pas que nous montions cette fois dans le même bateau. Adieu, ne me suivez pas. » Maud resta un instant interdit, la regardant partir. Puis il se reprit à marcher. Et alors, la jeune fille, dans le lointain, au moment de se perdre à nouveau dans la foule des invités, s'arrêta et, se tournant vers lui, pour la première fois, le regarda longuement. Était-ce pour lui défendre de l'accompagner ? Ou peut-être avait-elle quelque chose encore à lui dire ? Dès qu'on fut rentré au domaine, commença, derrière la ferme, dans une grande prairie en pente, la course des poneys. C'était la dernière partie de la fête. D'après toutes les prévisions, les fiancés devaient arriver à temps pour y assister, et ce serait Franz qui dirigerait tout. On dut pourtant commencer sans lui. Les garçons en costume de jockey, les fillettes en écuyères, amenaient les uns de fringants poneys enrubannés, les autres de très vieux chevaux dociles. Au milieu des cris, des rires enfantins, des paris et des longs coups de cloche, on se fut cru transporté sur la pelouse verte et taillée de quelques champs de course en miniature. Maud reconnut Daniel et les petites filles au chapeau à plumes, qu'il avait entendu la veille dans l'allée du bois. Le reste du spectacle lui échappa, tant il était anxieux de retrouver dans la foule le gracieux chapeau de rose et le grand manteau marron. Mais Mademoiselle de Galais ne parut pas. Il la cherchait encore, lorsqu'une volée de coups de cloche et des cris de joie annoncèrent la fin des courses. Une petite fille, sur une vieille jument blanche, avait remporté la victoire. Elle passait triomphalement sur sa monture et le panache de son chapeau flottait au vent. Puis soudain, tout se tut. Les jeux étaient finis et Franz n'était pas de retour. On hésita un instant, on se concerta avec embarras. Enfin, par groupe, on regagna les appartements pour attendre, dans l'inquiétude et le silence, le retour des fiancés. Chapitre 16. Franz de Galais. La course avait fini trop tôt. Il était 4h30 et il faisait jour encore,
lorsque Maune se retrouva dans sa chambre, la tête pleine des événements de son extraordinaire journée. Il s'assit devant la table, désœuvré, attendant le dîner et la fête qui devait suivre. De nouveau soufflait le grand vent du premier soir. On l'entendait gronder comme un torrent ou passer avec le sifflement appuyé d'une chute d'eau. Le tablier de la cheminée battait de temps à autre. Pour la première fois, Maune sentit en lui cette légère angoisse qui vous saisit à la fin des trop belles journées. Un instant, il pensa à allumer du feu, mais il essaya vainement de lever le tablier rouillé de la cheminée. Alors, il se prit à ranger dans la chambre. Il accrocha ses beaux habits au porte-manteau, disposa le long du mur les chaises bouleversées, comme s'il eût tout voulu préparer là pour un long séjour. Cependant, songeant qu'il devait se tenir toujours prêt à partir, il plia soigneusement sur le dossier d'une chaise, comme un costume de voyage, sa blouse et ses autres vêtements de collégien. Sous la chaise, il mit ses souliers ferrés, pleins de terre encore. Puis il revint s'asseoir et regarda autour de lui, plus tranquille, sa demeure qu'il avait mise en ordre. De temps à autre, une goutte de pluie venait rayer la vitre qui donnait sur la cour aux voitures et sur le bois de sapin. Apaisé, depuis qu'il avait rangé son appartement, le grand garçon se sentit parfaitement heureux. Il était là, mystérieux, étranger, au milieu de ce monde inconnu, dans la chambre qu'il avait choisie. Ce qu'il avait obtenu dépassait toutes ses espérances. Et il suffisait maintenant à sa joie de se rappeler ce visage de jeune fille dans le grand vent qui se tournait vers lui. Durant cette rêverie, la nuit était tombée sans qu'il songeât même à allumer les flambeaux. Un coup de vent fit battre la porte de l'arrière-chambre qui communiquait avec la sienne et dont la fenêtre donnait aussi sur la cour aux voitures. Maune allait la fermer lorsqu'il aperçut dans cette pièce une lueur, comme celle d'une bougie allumée sur la table. Il avança la tête dans l'entrebâillement de la porte. Quelqu'un était entré là, par la fenêtre sans doute, et se promenait de long en large à pas silencieux. Autant qu'on pouvait voir, c'était un très jeune homme. Nu-tête, une pèlerine de voyage sur les épaules, il marchait sans arrêt, comme affolé par une douleur insupportable. Le vent de la fenêtre qu'il avait laissée grande ouverte faisait flotter sa pèlerine, et chaque fois qu'il passait près de la lumière, on voyait luire des boutons dorés sur sa fine redingote. Il sifflait quelque chose entre ses dents, une espèce d'air marin, comme en chante pour s'égayer le cœur les matelots et les filles dans les cabarets des ports. Un instant, au milieu de sa promenade agitée, il s'arrêta et se pencha sur la table, chercha dans une boîte, en sortit plusieurs feuilles de papier. Maune vit, de profil, dans la lueur de la bougie, un très fin, très aquilin visage sans moustache, sous une abondante chevelure que partageait une raie de côté. Il avait cessé de siffler. Très pâle, les lèvres entr'ouvertes, il paraissait à bout de souffle, comme s'il avait reçu au cœur un coup violent. Maune hésitait s'il allait, par discrétion, se retirer, ou s'avancer, lui mettre doucement en camarade, la main sur l'épaule, et lui parler. Mais l'autre leva la tête et l'aperçut. Il le considéra une seconde, puis, sans s'étonner, s'approcha et dit, affermissant sa voix, « Monsieur, je ne vous connais pas, mais je suis content de vous voir. Puisque vous voici, c'est à vous que je vais expliquer. Voilà. » Il paraissait complètement désemparé. Lorsqu'il eut dit « Voilà », il prit Maune par le revers de sa jaquette, comme pour fixer son attention. Puis il tourna la tête vers la fenêtre, comme pour réfléchir à ce qu'il allait dire, cligna des yeux. Et Maune comprit qu'il avait une forte envie de pleurer. Il ravala d'un coup toute cette peine d'enfant.
Puis, regardant toujours fixement la fenêtre, il reprit d'une voix altérée.
« Eh bien, voilà, c'est fini, la fête est finie. Vous pouvez descendre le leur dire. Je suis rentré tout seul. Ma fiancée ne viendra pas. Par scrupule, par crainte, par manque de foi. D'ailleurs, monsieur, je vais vous expliquer. »
Mais il ne put continuer. Tout son visage se plissa. Il n'expliqua rien. Se détournant soudain, il s'en alla dans l'ombre, ouvrir et refermer des tiroirs pleins de vêtements et de livres.
« Je vais m'apprêter pour repartir, dit-il, qu'on ne me dérange pas. »
Il plaça sur la table divers objets, un nécessaire de toilette, un pistolet.
Et Mône, plein de désarroi, sortit sans oser lui dire un mot ni lui serrer la main.
En bas, déjà, tout le monde semblait avoir pressenti quelque chose. Presque toutes les jeunes filles avaient changé de robe. Dans le bâtiment principal, le dîner avait commencé, mais hâtivement, dans le désordre, comme à l'instant d'un départ. Il se faisait un continuel va-et-vient de cette grande cuisine salle à manger aux chambres du haut et aux écuries. Ceux qui avaient fini formaient des groupes où l'on se disait au revoir.
« Que se passe-t-il ? » demanda Mône à un garçon de campagne qui se hâtait de terminer son repas, son chapeau de feutre sur la tête et sa serviette fixée à son gilet.
« Nous partons, » répondit-il. « Cela s'est décidé tout d'un coup. À 5 heures, nous nous sommes trouvés seuls, tous les invités ensemble. Nous avions attendu jusqu'à la dernière limite. Les fiancés ne pouvaient plus venir. Quelqu'un a dit « Si nous partions ?» Et tout le monde s'est apprêté pour le départ. »
Mône ne répondit pas. Il lui était égal de s'en aller maintenant. N'avait-il pas été jusqu'au bout de son aventure? N'avait-il pas obtenu cette fois tout ce qu'il désirait? Et c'est à peine s'il avait eu le temps de repasser à l'aise dans sa mémoire toute la belle conversation du matin. Pour l'instant, il ne s'agissait que de partir. Et bientôt, il reviendrait, sans tricherie cette fois.
« Si vous voulez venir avec nous, » continua l'autre, qui était un garçon de son âge, « hâtez-vous d'aller vous mettre en tenue. Nous attelons dans un instant. »
Il partit au galop, laissant là son repas commencer et négligeant de dire aux invités ce qu'il savait. Le parc, le jardin et la cour étaient plongés dans une obscurité profonde. Il n'y avait pas, ce soir-là, de lanternes aux fenêtres. Mais comme, après tout, ce dîner ressemblait au dernier repas des fins de noces, les moins bons des invités, qui peut-être avaient bu, s'étaient mis à chanter. À mesure qu'ils s'éloignaient, Mône entendait monter leurs airs de cabaret dans ce parc qui, depuis 2 jours, avait tenu tant de grâces et de merveilles. Et c'était le commencement du désarroi et de la dévastation. Il passa près du vivier où, le matin même, il s'était miré. Comme tout paraissait changé déjà, avec cette chanson reprise en chœur qui arrivait par bribes.
D'où donc que tu reviens, que petite tu libertine, reviens, que tu reviens, ton bonnet reviens, déchiré, déchiré, tu es bien mal coiffée.
Et cet autre encore.
Mes souliers sont rouges, adieu mes amours, mes souliers sont rouges, adieu sans retour.
Comme il arrivait au pied de l'escalier de sa demeure isolée, quelqu'un en descendait qui le heurta dans l'ombre et lui dit « Adieu, monsieur !» et, s'enveloppant dans sa pèlerine comme s'il avait très froid, disparut. C'était Franz de Galet. La bougie que Franz avait laissée dans sa chambre brûlait encore. Rien n'avait été dérangé. Il y avait seulement écrit sur une feuille de papier à lettres, placée en évidence, ces mots. Ma fiancée a disparu, me faisant dire qu'elle ne pouvait pas être ma femme, qu'elle était une couturière et non pas une princesse. Je ne sais que devenir. Je m'en vais, je n'ai plus envie de vivre. Qu'Yvonne me pardonne si je ne lui dis pas adieu, mais elle ne pourrait rien pour moi. C'était la fin de la bougie, dont la flamme vacilla, rampa une seconde et s'éteignit. Mône
rentra dans sa propre chambre et ferma la porte. Malgré l'obscurité, il reconnut chacune des choses qu'il avait rangées en plein jour, en plein bonheur, quelques heures auparavant. Pièce par pièce, fidèle, il retrouva tout son vieux vêtement misérable, depuis ses godillots jusqu'à sa grossière ceinture à boucles de cuivre. Il se déshabilla et se rhabilla vivement, mais distraitement, déposa sur une chaise ses habits d'emprunt, se trompant de gilet. Sous les fenêtres, dans la cour aux voitures, un remue-ménage avait commencé. On tirait, on appelait, on poussait, chacun voulant défaire sa voiture de l'inextricable fouillis où elle était prise. De temps à autre, un homme grimpait sur le siège d'une charrette, sur la bâche d'une grande carriole, et faisait tourner sa lanterne. La lueur du falot venait frapper la fenêtre. Un instant, autour de Mône, la chambre maintenant familière, où toute chose avait été pour lui si amicale, palpitait, revivait. C'est ainsi qu'il quitta, refermant soigneusement la porte, ce mystérieux endroit qu'il ne devait sans doute jamais revoir. Chapitre 17. La fête étrange. Fin. Déjà dans la nuit, une file de voitures roulait lentement vers la grille du bois. En tête, un homme revêtu d'une peau de chèvre, une lanterne à la main, conduisait par la bride le cheval du premier attelage. Mône avait hâte de trouver quelqu'un qui voulût bien se charger de lui. Il avait hâte de partir. Il appréhendait au fond du cœur de se trouver soudain seul dans le domaine et que sa supercherie fût découverte. Lorsqu'il arriva devant le bâtiment principal, les conducteurs équilibraient la charge des dernières voitures. On faisait lever tous les voyageurs pour rapprocher ou reculer les sièges, et les jeunes filles, enveloppées dans des fichus, se levaient avec embarras. Les couvertures tombaient à leurs pieds, et l'on voyait les figures inquiètes de celles qui baissaient leur tête du côté des falots. Dans un de ces voituriers, Mône reconnut le jeune paysan qui tout à l'heure avait offert de l'emmener. « Puis-je monter ? » lui cria-t-il. « Où vas-tu, mon garçon ? » répondit l'autre qui ne le reconnaissait plus. « Du côté de Sainte-Agathe. Alors il faut demander une place à Maritain. » Et voilà le grand écolier cherchant parmi les voyageurs attardés ce Maritain inconnu. On le lui indiqua parmi des buveurs qui chantaient dans la cuisine. « C'est un amusard, lui dit-on. Il sera encore là à 3 heures du matin. » Mône songea un instant à la jeune fille inquiète, pleine de fièvre et de chagrin, qui entendrait chanter dans le domaine, jusqu'au milieu de la nuit, ses paysans avinés. Dans quelle chambre était-elle? Où était sa fenêtre parmi ces bâtiments mystérieux? Mais rien ne servirait à l'écolier de s'attarder. Il fallait partir. Une fois rentré à Sainte-Agathe, tout redeviendrait plus clair. Il cesserait d'être un écolier évadé. De nouveau, il pourrait songer à la jeune châtelaine. Une à une, les voitures s'en allaient. Les roues grinçaient sur le sable de la grande allée. Et dans la nuit, on les voyait tourner et disparaître, chargées de femmes emmitouflées, d'enfants dans des fichus qui déjà s'endormaient. Une grande carriole encore, un char à banc, où les femmes étaient serrées épaule contre épaule, passa, laissant Mône interdit sur le seuil de la demeure. Il n'allait plus rester bientôt qu'une vieille berline que conduisait un paysan en blouse. « Vous pouvez monter, » répondit-il aux explications d'Augustin. « Nous allons dans cette direction. » Péniblement, Mône ouvrit la portière de la vieille guimbarde, dont la vitre trembla et les gonds crièrent. Sur la banquette, dans un coin de la voiture, deux tout petits enfants, un garçon et une fille, dormaient. Ils s'éveillèrent au bruit et au froid, se détendirent, regardèrent vaguement, puis en frissonnant se renfoncèrent dans leur coin et se rendormirent. Déjà la vieille voiture partait. Mône referma plus doucement la portière et s'installa avec précaution dans l'autre coin. Puis, avidement, s'efforça de distinguer à travers la vitre les lieux qu'il allait quitter et la route par où il était venu. Il devina, malgré la nuit, que la voiture traversait la cour et le jardin, passait devant l'escalier de sa chambre, franchissait la grille et sortait du domaine pour entrer dans les bois. Fuyant le long de la vitre, on distinguait vaguement les troncs des vieux sapins. « Peut-être rencontrerons-nous Franz de Galet, » se disait Maun, le cœur battant. Brusquement, dans le chemin étroit, la voiture fit un écart pour ne pas heurter un obstacle. C'était, autant qu'on pouvait deviner dans la nuit à ses formes massives, une roulotte arrêtée presque au milieu du chemin et qui avait dû rester là, à proximité de la fête, durant ces derniers jours. Cet obstacle franchi, les chevaux repartis au trot, Maun commençait à se fatiguer de regarder à la vitre, s'efforçant vainement de percer l'obscurité environnante. Lorsque soudain, dans la profondeur du bois, il y eut un éclair, suivi d'une détonation. Les chevaux partirent au galop et Maun ne sut pas d'abord si le cocher en blouse s'efforçait de le retenir ou au contraire les excitait à fuir. Il voulut ouvrir la portière. Comme la poignée se trouvait à l'extérieur, il essaya vainement de baisser la glace, la secoua. Les enfants, réveillés en peur, se serraient l'un contre l'autre sans rien dire. Et tandis qu'il secouait la vitre, le visage collé au carreau, il aperçut, grâce à un coude du chemin, une forme blanche qui courait. C'était, hagard et affolé, le grand Pierrot de la fête, le bohémien en tenue de mascarade, qui portait dans ses bras un corps humain serré contre sa poitrine. Puis, tout disparut. Dans la voiture qui fuyait au grand galop à travers la nuit, les deux enfants s'étaient rendormis. Personne à qui parler des événements mystérieux de ces deux jours. Après avoir longtemps repassé dans son esprit tout ce qu'il avait vu et entendu, plein de fatigue et le cœur gros, le jeune homme lui aussi s'abandonna au sommeil, comme un enfant triste. Ce n'était pas encore le petit jour, lorsque, la voiture s'étant arrêtée sur la route, Maun fut réveillé par quelqu'un qui cognait à la vitre. Le conducteur ouvrit péniblement la portière et cria, tandis que le vent froid de la nuit glaçait les colliers jusqu'aux os. « Il va falloir descendre ici, le jour se lève, nous allons prendre la traverse, vous êtes tout près de Sainte-Agathe. » À demi replié, Maun obéit, chercha vaguement, d'un geste inconscient, sa casquette qui avait roulé sous les pieds des deux enfants endormis, dans le coin le plus sombre de la voiture. Puis il sortit en se baissant. « Allons, au revoir !» dit l'homme en remontant sur son siège. « Vous n'avez plus que 6 kilomètres à faire. Tenez, la borne est là, au bord du chemin. » Maun, qui ne s'était pas encore arraché de son sommeil, marcha courbé en avant, d'un pas lourd, jusqu'à la borne, et s'y assit, les bras croisés, la tête inclinée, comme pour se rendormir. « Ah non !» cria le voiturier. « Il ne faut pas vous endormir là, il fait trop froid. Allons, debout, marchez un peu !» Vacillant comme un homme ivre, le grand garçon, les mains dans ses poches, les épaules rentrées, s'en alla lentement sur le chemin de Sainte-Agathe, tandis que, dernier vestige de la fête mystérieuse, la vieille berline quittait le gravier de la route et s'éloignait, cahotant en silence, sur l'herbe de la traverse. On ne voyait plus que le chapeau du conducteur dansant au-dessus des clôtures.